Soyez de la partie. Écoutez tous les matchs à Signe FM 96.7 et CFLX 95.5. Diffuseur officiel du Phoenix de Sherbrooke.
Conditions actuelles. Moins 4 degrés.
Une radio pas pire, progressive.
CFLX 95.5 FM.
J'ai un fils enragé qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples et finances où il ne peut entrer et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas.
Eh oui, toujours sur ce thème, l'alouette en colère. Hier, c'était un corbeau qui était en colère, qui a, je ne sais pas si vous avez vu sur les bulletins de nouvelles, le centre-ville et l'est de Sherbrooke a été privé d'électricité, justement, par un corbeau qui picossait le système électrique. Alors, c'était un corbeau en colère. Et aujourd'hui, pour cette belle édition du dernier jeudi de février, Manon, bonjour.
Bonjour, Alain.
Alors, c'est ça. Donc, tu n'as pas manqué de courant dans ton coin.
En fait, je ne peux pas te répondre. Moi, hier, j'ai fait un aller-retour Sherbrooke-Montréal pour le travail.
Ah.
Donc, j'ai passé plus de temps dans l'autobus que chez nous.
Que chez vous, OK. Donc, c'est ça, t'avais un loyer à temps plein.
Exactement. Fait que, dans le fond, j'ai pas été importunée par le corbeau, mais je le salue.
C'est ça, exactement. Alors, donc, aujourd'hui, une émission bien remplie, comme toujours. Et de rappeler, bien sûr, toujours cette reconnaissance du territoire. Puis je pense qu'on devrait le souligner de plus en plus. On a pu voir, justement, tu en as parlé la dernière fois que tu es venu, Manon, le bel accueil que notre ministre Valais Borette a vu de ça, là, évidemment, de façon ironique, aux Premières Nations. C'est ça, là, comme disait le bâton qu'il voulait pas qu'il rentre. Moi, je sais que j'aurais fait avec, là. Avec Ben. On sera pas violent, là. Mais de reconnaître que le territoire où nous sommes est un territoire non cédé. De la nation Abénaki, et de le rappeler justement que, encore plus, on a pu voir là, justement dans une des villages autochtones aussi, la police, je pense, cherchait un chevreuil. Il y avait quelque chose de mais,
ouais.
Mais c'est parce qu'ils sont très vite 10-12 polices, les coups de poing dans la porte, puis. C'est
Non, ça, j'ai vu brièvement passer.
Aussi,
je dois te dire que j'ai pas, je suis pas trop au courant de ce qui s'est passé, mais bien que je sois malheureusement pas étonnée que les policiers peuvent aller faire ça. Mais tu sais, on dirait aussi que c'est tout dans une mouvance dernièrement. Je sais pas si tu avais vu la une du Journal de Montréal il y a quelques jours, quand il avait fait émoi du fait que des caribous avaient été tués par un groupe autochtone pour, bien entendu, nourrir.
Ben, c'est ce caribou-là, il y en a qui cherchaient. C'était un caribou qui cherchait.
Mais exactement, mais tu sais, cette une-là, moi, je me souviens de l'avoir vue le matin en étant au Delia, puis j'étais comme, ben voyons donc, là, ils veulent juste attiser la haine là, avec ça. Et comme de fait, depuis cette une-là, les médias sociaux regorgent de commentaires à l'égard des personnes autochtones pour leur rappeler qu'ils sont juste des tueurs de caribous, alors que, tu sais, les autres, ils font ça pour survivre puis pour nourrir leur communauté.
C'est ce qu'on dit. C'est pas un sport pour eux autres, là.
Non, exactement.
C'est leur survie, puis ça, c'est important. Fait que donc, il y a encore du chemin à faire, comme tel, pour que cette reconnaissance de territoire soit faite, surtout avec Valais Borette et sa constitution, qu'il aime bien faire chez lui.
Oui.
Et ça nous amène, maintenant, justement, tout à l'heure, on va avoir des sujets, comme toujours, bien pertinents. Et le milieu communautaire commence à être à bout.
Oui.
Et vendredi dernier, il y avait justement un rassemblement au coin de King Jean Cartier pour lancer. Puis mardi, il y avait une rencontre aussi des groupes communautaires. Fait que ça suffit, le saccage du filet social, la grève sociale. Fait que, et actuellement, là, il y a des groupes qui se sont réunis mardi et on va en parler beaucoup dans les prochaines semaines.
Oui, je sais aussi qu'un camarade du CHIB va venir t'en parler le 12 mars prochain. Donc, alors, une émission spéciale grève sociale.
Parfait. Fait que donc, évidemment, on va simplement rappeler justement que nous sommes c'est tous des groupes communautaires, qu'ils soient syndicaux, féministes, citoyens, les personnes qui s'engagent à bâtir. Et donc, nous sommes indignés, nous résistons avec courage et détermination. Et bien sûr, il y aura une grève, d'autres activités, mais principalement une grève sociale 1er et 2 mai. Alors, en grève comme telle sociale, donc des conditions de vie qui soient demandées, qui soient dignes comme telles. Puis on sait, dans les groupes communautaires, hein, on est tellement bien subventionné, puis tellement... Tu sais, je parlais avec, justement, la réplique. Ma Michel, qui était à côté de moi, là, mardi, ils ont perdu une partie de financement et ils sont obligés de couper les heures. Ah. Alors que les demandes qu'elles reçoivent augmentent.
Exactement. Mais tu sais, beaucoup de groupes communautaires vivent aussi avec des périodes de chômage, des fermetures de leur groupe, de leur organisme pour une période X, parce que souvent, les revenus qu'ils ont actuellement ne permettent pas de couvrir une année complète, alors que plusieurs groupes font, au-delà de juste de la défense politique des droits, ils font aussi vraiment de la défense individuelle, aider des gens avec des dossiers, que ce soit pour l'aide sociale, le chômage, le logement. Donc, vraiment, ils en ont plein les pattes.
Alors, c'est ça. Donc, évidemment, on va suivre ça. Donc, aujourd'hui, de beaux sujets.
Oui.
Que tu nous proposes.
Mais beau sujet. En fait, il va y avoir d'abord un beau.
Mais, beau dans le sens bien présenté par toi, là. Pas nécessairement des belles choses tout le temps, là.
Oui, bien présenté, je le sais pas, Alain, parce que je vais être honnête envers nos auditeurs, auditrices. J'avais complètement oublié que j'avais une chronique aujourd'hui. J'étais certaine que c'était ma camarade Ginger qui en faisait une. C'est vraiment ma tête qui a inventé quelque chose.
C'est pas grave.
Mais c'est grâce à ton rappel que je me suis préparée.
C'est pour ça que je le fais toujours, là, parce que je me dis, ça va faire 28 ans que je fais de la radio, maintenant, puis... Les imprévus, là, j'en ai vu dans ma vie, fait qu'il arriverait quelque chose, là, puis je t'en voudrais pas, là, parce que j'en ai vu d'autres, là. Mais c'est pour ça que je fais toujours un petit rappel, là, de pas oublier, puis s'il arrivait quelque chose, écoute, là, c'est bien normal, là.
Oui, puis au-delà de ça, c'est que moi, je veux vraiment pas manquer ces beaux moments avec toi. Donc, vraiment, le rappel a été très apprécié. Donc, pour débuter la chronique, je voulais juste faire un petit retour sur deux projets de loi là, qui sont actuellement en cours à l'Assemblée nationale. D'abord, je vais parler d'un tout nouveau projet de loi qui a passé assez rapidement l'étape des consultations, qui est le projet de loi de Yann Lafrenière, notre ministre, notre gentil ministre de la Sécurité publique.
Ben oui, l'autre jour, il y a quasiment pleuré à TV quand il y a eu justement des gens qui ont été tués, là, en Colombie-Britannique, là. Il pensait aux policiers qui ont vu. Mais évidemment, c'est la scène devait être épouvantable. Fait que là, il y a un cœur, lui, mon doux.
Oui, mais après ça, tu sais...
Il était à TV aussi, ça aide.
C'est ça. Après, moi, je veux pas douter qu'ils ont pas nécessairement de cœur, mais qu'est-ce qui est sûr, c'est que cette personne-là travaille dans la même direction que l'ensemble de son gouvernement. Ben ça
oui,
veut dire venir s'abroger le peu de droits que nous avons. Donc, notre chère Yann a déposé le projet de loi 13, la loi visant à favoriser la sécurité, le sentiment de sécurité de la population. Donc, on favorise la sécurité, mais également le sentiment des gens. Ce projet de loi-là couvre plusieurs affaires. Je le sais que les médias en font un gros cas parce qu'il veut justement interdire là, les patchs pour les Hells. Okay. C'est vraiment ça qui tourne dans les médias principalement.
Je pourrais plus y mettre. Okay.
Je me suis pas vraiment intéressée à cet aspect-là du projet de loi, ni même à l'ensemble. Là. Je sais aussi qu'il y a d'autres aspects. Mais moi, ce qui m'a surtout interpellée, c'est les restrictions qu'il va avoir si le projet de loi passe en matière de manifestation.
Oui.
Donc, essentiellement...
Surtout avec grève sociale qui s'en vient, là, entre autres, puis d'autres jours.
La grève sociale, mais toutes les manifs qu'on voudrait faire.
Ouais.
Donc, ce petit segment-là, ça inspire beaucoup d'un post là, que j'ai vu de la Ligue des droits et libertés, qui ont malheureusement pas été entendus par le ministre lors de la consultation. Ce dernier s'est limité à écouter les groupes de services de police ou les syndicats de policiers.
Ah,
sommes-nous étonnés?
Quel hasard, hein? Ça, C'est arrivé de même, hein, ça.
Oui, ouais, bon, c'est hein. Ça. Le mémoire des groupes de liberté, de défense des droits et libertés n'était pas super pertinent, mais celui de la fraternité des policiers, let's go.
La police, servir, protéger.
Protéger nos membres. Donc, plusieurs restrictions, comme je disais, en matière de manifestation, notamment un nouveau pouvoir de fouille pour les policiers qui serait sans mandat. Okay. Donc, essentiellement, le projet de loi viendrait interdire à quiconque d'avoir en sa possession, sans motif valable, un objet ou une substance. Là, vous comprenez que je cite là, le projet de loi, c'est pour ça que c'est un peu indigeste. Donc, je disais, viendrait interdire d'avoir en sa possession un objet ou une substance pouvant servir à porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne, à la menacer ou à l'intimider, ou pouvant causer des dommages aux biens. Ça, c'est extrêmement large, Alain.
Oui, effectivement. C'est ça,
oui. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est tellement large qu'on peut s'imaginer que quasiment tout rentre là-dedans. À titre d'exemple, la Ligue des droits et libertés disait que ça pourrait, par exemple, viser aussi banalement le bout de bâton avec lequel on soutient nos pancartes.
Oui.
Fait que, ben oui. Et là, dans le fond, avec cette nouvelle clause-là qui donnera en fait, ça viendrait donner un pouvoir aux policiers de nous fouiller sans mandat. En fait, toute personne qui l'estime avoir un motif raisonnable de croire qu'elle a en sa possession un objet qu'il considère interdit. Donc ça, c'est vraiment un pouvoir qui est très, très large aux policiers de venir fouiller quelqu'un sans mandat. Au-delà de l'aspect que c'est sûrement inconstitutionnel, moi, je trouve que ça vient ouvrir la voie à encore plus d'abus, de profilage, comme si la police avait besoin d'avoir encore plus de largesse en la matière.
Ben oui.
Donc, Yann vient vraiment donner un pouvoir bonbon aux policiers pour faire encore plus de dégâts. Et venir limiter le...
Puis t'es un ancien policier lui-même.
Ouais, exactement. Fait que sûrement qu'il vient de se donner le pouvoir qu'il a toujours voulu avoir en tant que police. Mais au-delà de ça, c'est que ça va venir inquiéter les gens qui manifestent. Puis ça me perturbe beaucoup. Déjà que la police s'amuse à vouloir être ceux qui s'occupent des cortèges, qui sont toujours là pour, semble-t-il, protéger les manifestants. Là, ils vont avoir le droit, en plus, de nous fouiller dès qu'ils jugent là, qu'on a peut-être en possession un objet qui pourrait menacer ou intimider. Fait que, bref, un peu n'importe quoi.
Tu peux avoir un stylo.
Un stylo.
Un stylo, tu peux crever une œil.
Oui, c'est ça. À présent, on peut penser à plein de choses. Est-ce qu'un téléphone qui filme pourrait être aussi quelque chose qui intimide les policiers? On pourrait se poser la question. Donc, au-delà de ça, qu'on pourrait s'imaginer toutes les problématiques de cette clause-là, le projet de loi entend également interdire d'organiser ou de participer à une manifestation dans l'espace public si celle-ci est à moins de 50 mètres du terrain de la résidence d'une personne élue.
Ah, OK.
Ça, pour vrai, je trouve ça quand même assez inquiétant. Bon, je sais pas si ça fait écho au fait que le ministre Boulay a eu une manifestation pas loin de chez lui à Trois-Rivières après ses attaques répétées à l'égard des syndicats, mais où je sais aussi que je crois que dans certains milieux municipaux, là, il y avait eu des échos à cet effet-là.
Puis le Frappery, dernièrement aussi, avait fait quelque chose aussi auprès du condo de Legault.
OK.
Il y a moyen de se payer un condo, je ne sais pas comment ça se fait.
Oui, moi non plus, je ne sais pas.
Ben, il a emprunté, là. Mais donc, parce que sur l'île des Sœurs, ils sont allés à l'île des Sœurs, bon.
Mais c'est ça. Fait que là, on peut s'imaginer que certains types de manifestations pourraient tout simplement être interdites, ou même on pourrait pénaliser les gens qui participent aussi à ces manifestations-là. Donc, tu sais, même sans savoir que la manif, finalement, est proche de chez un élu, le simple fait de manifester à quelque part d'aussi proche, tu pourrais te voir... tu pourrais te faire donner des amendes à cet effet-là. Mais on peut aussi se questionner sur ça va être quoi l'impact dans certaines villes.
Ben oui.
Tu sais, juste imaginons la ville de Québec, là. Il y a 125 élus de l'Assemblée nationale qui y vivent.
Ben
fait que là, puis ils vivent souvent dans un carré qui est pas très loin de la dite Assemblée nationale.
Ben oui,
qui est quand même une place qui, normalement, c'est là qu'on va manifester à Québec.
Assez pas mal, oui.
Donc, est-ce que ça va venir interdire toutes les manifs dans la ville de Québec?
Ça pourrait être dangereux.
On peut se poser la question. Après, on peut aussi penser aux petites municipalités. Là. Moi, je suis pas très bonne avec... je m'y connais pas beaucoup, mais on pourrait imaginer, mettons, une ville comme Stoke ou une ville même comme Magog. Est-ce que j'en ai... Est-ce que...
Je pense qu'il y a quelque chose. Non, je dirais pas.
Exactement. Fait que, tu sais, est-ce que ces petites villes-là aussi, on pourrait voir l'espace de manifestation très réduite, ou même les lieux qui sont significatifs pour les manifestations être interdits parce que l'élu, ça donne à avoir son condo ou sa maison pas très loin.
Bien, il y a quelques années de ça, Jean Forêt,
Oui.
Le Frappier, on avait fait une manif. Mais nous aussi, je ne sais pas comment ça se fait, il y avait un moyen de se payer une maison à Westmont. Là. Ça devait être.
Ah, ouais.
Ben, il y avait son père il avait prêté de l'argent. Puis bon. Mais on avait. Mais la police nous avait tenu plus loin, là. On n'avait pas été jusqu'à la maison. Mais on était dans le quartier pauvre de Westmont.
Ouais,
donc, c'est ça. Donc, évidemment, ça avait été. Entre autres, ici, la tribune, dans le temps, là. La tribune était pro-forêt. Puis là, ils nous avaient traité de tous les noms possibles, imaginables.
Mais c'est ça. Puis moi, je trouve que ça vient un peu perdre l'essence de ce qui est une manifestation. Tu sais, à trop vouloir les édulcorer, on vient un peu perdre le sens que c'est censé déranger. Après, c'est sûr qu'avec le temps, le fait qu'il faut toujours déclarer des... Ben, frère, il faut. Moi, je crois pas qu'il faut le faire, mais le fait que la pratique vient qu'on déclare l'itinéraire, qu'on le dise aux policiers en avance, etc., tu sais... La manif dérange plus. Mais là, on vient de rajouter une couche sur le fait que la manif va encore bien moins déranger.
Exactement.
Et malheureusement, je crois pas que c'est... Je crois que c'est vraiment dans ce dessin-là qu'il faut être inquiet, encore une fois, que la CAQ essaie de nous enfoncer un projet de loi liberticide qui vient limiter un droit aussi fondamental que celui de manifester. Fait que vraiment... Encore une fois, la CAQ travaille fort là, pour venir faire un peu de merde avant de partir.
Ben oui, c'est ça, exactement.
Donc, puis je voulais juste faire un dernier petit survol sur le PL1, parce que j'en ai parlé la dernière fois quand j'ai accompagné Florence, mais je voulais juste faire un petit topo.
Oui.
Dans le fond, les consultations sont terminées. La prochaine étape, ça va être l'étude détaillée où que les partis d'opposition vont discuter avec Simon pour essayer de le convaincre d'améliorer le projet de loi, mais...
Ou simplement parler au mur.
Exactement.
Une expression en Beauce, ils disent parler au poêle. Quand tu parles à un poêle, là, ça bouge
pas. Il répond pas trop.
Ben, ça ressemble un peu à l'expression de la Beauce, là, parler au poêle.
C'est une bonne expression, je vais essayer de la garder dans ma poche. Mais bref, ceci dit... donc là, le PL1 s'en va là-dedans. Là, une des nouvelles qui nous a été apprise dernièrement, c'est que Simon entend retirer l'article problématique sur le droit à l'avortement.
Oui, après beaucoup de pression, d'ailleurs.
Exactement. Moi, je veux vraiment inviter les gens à pas genre trop être contents de tout ça. Oui, c'est un article problématique, mais l'ensemble du projet l'est, tout simplement.
Projet l'est.
Exactement. Fait que la seule chose qui doit être faite dans ce cas-ci, c'est que le projet de loi soit abandonné. C'est vraiment très, très important. Donc, faut pas se laisser leurrer par le fait que Simon essaye de l'améliorer en retirant un article problématique. Il y en a plusieurs autres. Donc, faut pas croire qu'il est tout simplement devenu gentil, là.
Non, c'est ça, là.
Puis aussi, moi, je voulais en reparler parce que, en fait, Simon, au-delà de s'entêter, là, à vouloir poursuivre puis le faire adopter son projet, il a dit quelques affaires hier qui m'ont un petit peu interpellée. Dans le fond, il a appelé, là, bon, il a appelé ses collègues de l'opposition à, bon, dépasser la partisanerie, qui était dans l'intérêt national d'adopter la Constitution, qu'il va de l'intérêt de la nation québécoise. Et il a dit ceci. Puis je te le cite, Alain, parce que moi, ça m'a quand même inquiété. Il a dit... Et s'ils refusent de débattre, Monsieur le Président, et s'ils font en sorte d'allonger les procédures parlementaires pour éviter que le texte soit adopté, Monsieur le Président, ce serait d'une grande tristesse pour la nation québécoise. Là, pourquoi ça m'a interpellée, c'est que moi, je trouve qu'il est en train peut-être de placer les jalons ou les petites pierres pour permettre peut-être d'aller vers un bâillon avec ce projet de loi-là.
Ils seraient capables de le faire. Ils l'ont fait dernièrement, il n'y a pas si longtemps.
Exactement. Ils l'ont fait pour plein de lois très fondamentales, puis ils l'ont fait plus qu'une fois pour aussi modifier la Charte des droits et libertés.
Exactement.
Donc, moi, je m'attendrais à tout pour la CAQ. Ils sont vraiment en mission de saccager le Québec. Le projet de loi est une... Le projet de loi 1, le projet de constitution est une des briques dans ce projet-là. Donc, soyez attentifs. J'espère me tromper, mais je crois qu'il a commencé à mettre peut-être les... à construire le discours là, pour permettre cela.
On est au mois de... quasiment au mois de mars. Là, la session parlementaire va se terminer pour l'été. Après ça, on tombe en période électorale. Donc, évidemment, ça pourrait arriver, justement, dans les prochains... S'il y a beaucoup de discussions, puis tout ça, dire, bon, on ferme ça.
Oui, parce qu'essentiellement, il est déjà très serré là, pour adopter le projet de loi. C'est assez chargé. Il y a beaucoup de règlements. Il y a plus qu'une loi là, dans ce projet-là. Ah oui. Donc, tu sais, je crois que je ne sais pas combien de temps il reste à la session, là, peut-être tout au plus 10 semaines.
Oui.
Ça me semble relativement très court. Fait que c'est pour ça que moi, je trouvais intéressant de ramener les propos.
C'est dangereux, effectivement. Puis on sait qu'ils l'ont fait dernièrement pour. Comme tel, puis fait que c'est, on ne sera pas surpris.
Exactement. Donc, laissons tomber un peu l'Assemblée nationale puis les mauvaises nouvelles. ma dernière partie de ma chronique sera quand même un peu longue, mais vient un peu discuter d'un travail que le CHIP a fait dernièrement. En fait, j'ai plusieurs camarades du CHIP qui ont écrit un article pour un numéro spécial de la revue d'histoire urbaine à paraître dans un jour lointain, mais on va te tenir au courant de la dite publication.
Mais
Alain,
oui,
t'inquiète
sûr.
Pas.
Bien sûr.
Donc, comme je dis, ils ont travaillé très fort pour faire cet article. Et les lire m'a donné le goût de vous revenir aujourd'hui sur les débuts du CHIP. Parce que, dans le fond, il faut comprendre que le CHIP s'est construit autour d'une première enquête, celle concernant le restaurant 24 heures chez Charlie.
Oui, une institution, je crois que...
Exactement. Feu Charlie, qu'on doit dire aujourd'hui.
Bon, oui.
Donc, c'est un peu ça que je voulais te proposer là, pour peut-être les 10 prochaines minutes, Alain.
Parfait.
Donc, es-tu prêt?
Mais oui, bien sûr, toujours prêt.
Donc, comme on se rappelle, au printemps 2023, La Tribune annonçait que le Charlie avait été mis en vente pour une deuxième fois. Nous, quand on a lu ça, on était plusieurs camarades, plusieurs amis, en fait, qui se sont échangés l'article et qui avaient été assez perturbés par la vente du Charlie, surtout considérant les montants là, que je vais vous nommer plus tard. Et nous avons comme enclenché spontanément un travail d'enquête citoyenne autour de cette question-là. Au-delà de seulement le Charlie, pour nous, il s'agissait d'un intéressant cas de figure de la spéculation au centre-ville de Sherbrooke. Donc, comme je te disais, on était un groupe d'amis qui s'est réuni autour de cette enquête. On pourrait aussi parler d'un groupe affinitaire qui était préoccupé par la situation du logement, mais aussi les conditions de vie des locataires.
Okay.
Donc, c'est un peu pour ça aussi qu'on s'entend bien. Allez. Donc, cette enquête à propos du Charlie, comme tu disais, un lieu populaire que nous avons tous fréquenté, je présume que toi aussi.
Oui, mais même moi, écoute, quand j'ai fait mon cégep au séminaire de Sherbrooke en 1972, tu ne te souviens pas de ça? Là, quand tu n'as pas été consoeur avec moi c'est au collégial, on allait prendre un café là, comme tu dis. C'était l'endroit, là, c'était proche de tout. Là. Il y avait là, puis le pavillon... Puis le pavillon 7, qui était la boutifeuille.
OK.
Mais c'était un endroit mais emblématique à Sherbrooke.
Oui, exactement. Puis nous autres aussi, on l'a tout fréquenté. Moi, je me souviens notamment de nombreuses poutines en fin de soirée ou peut-être au milieu de la nuit, vu que c'était un des rares lieux qui était ouvert 24 heures aussi
exactement.
À Sherbrooke.
Exactement, aussi.
Donc, tout ça pour dire que l'enquête que... Ce groupe affinitaire-là a conduit à la publication d'un zine intitulé pour un Sherbrooke populaire, tome 1. Pour ceux que ça l'intéresse, il est toujours disponible à notre local au 187 rue Laurier. Comme je disais, à ce moment-là, le CHIP n'existait pas encore, mais il s'est constitué quelques mois plus tard, à l'automne 2023, en continuité avec cette enquête, qui aura aussi pris la forme d'une mobilisation et qui deviendra le lieu de formalisation du CHIP. Donc, comme on vient de discuter, Alain, le Charlie, pour nous, mais aussi pour les gens à qui on en a discuté, était vraiment le dernier refuge au centre-ville pour enfiler les réchauds de café, pour manger pour pas cher.
Oui, pour pas cher, justement. Oui,
exactement. Un burger, une poutine déjeuner, à toute heure du jour ou de la nuit, que ce soit à la fermeture des bars, au petit matin ou même en plein après-midi pendant les études, par exemple.
Exactement.
Donc, on pouvait... En fait, ce lieu-là est accessible pour tout le monde et on pouvait y trouver une ambiance de répit-repos, l'opportunité de se déposer, quoi.
Puis il y avait une terrasse l'été aussi ouverte, aussi, c'était fun.
Oui, exactement. Puis c'était un coin vraiment central aussi au centre-ville, pas loin du parc Camiran notamment. Fait que C'était vraiment un lieu sympa, comme on dit. Donc, comme je disais, tout ça a parti avec l'article de la Tribune du 30 mars 2023 qui annonçait que le Charlie devait être rasé pour être remplacé par un immeuble de 6 étages composé de 36 unités résidentielles, puis ce qui attendu contribuait à la densification du quartier.
Ben oui.
Donc, comme nommé, c'est cet article qui fut le point de départ de notre enquête. Grâce à elle, nous savons maintenant que sa petite histoire au Charlie remonte à la cantine Albert, une roulotte à patates frites tenue par Albert Zakaib de 1933 à 1973. En 73, donc pas mal dans tes années de cégep.
Ben oui, parce qu'en 33, là, t'as pas né.
On n'ira pas jusque-là. Donc, la cantine est reprise par Frédéric, son fils, qui en fait un restaurant pignon sur rue à l'angle des rues King Camiran, rebaptisé Fred Burger.
Oui, c'est ça.
Le restaurant prend finalement le nom de Chez Charlie en 85. Et donc, nous nous retrouvons en 2021. C'est à la suite du décès du propriétaire Jocelyn Gagné que le restaurant ferme ses portes et la succession de M. Gagné est refusée par sa famille.
Okay.
C'est suite à ça que s'ensuit des transactions immobilières entourant la vente du terrain et du bâtiment. Donc, une première vente a été effectuée le 21 janvier 2022 au coût de 400 000 $. Puis, une deuxième vente au coût de 650 000 $ a lieu 22 jours plus tard.
Okay.
Donc, c'est quand même assez rapide. C'est Multiflip, à ce moment-là, qui devient le propriétaire. Donc, Multiflip, je ne sais pas c'était quoi ses intentions avec le Charlie, mais en 2003, la Tribune nous indique qu'ils remettent en vente le Charlie sous la forme d'un projet 2023 immobilier.
Ou...
2023,
oui. Oui, excuse-moi.
Oui, oui, exactement. Ils n'ont pas inventé la machine à remonter dans le temps. Là, on ne s'inquiétera pas avec ça. Mais bref, en mars 2023, Multiflip, donc un an plus tard environ, remettent le Charlie en vente sous la forme d'un projet qui inclut des plans pour 36 unités de logement. Bon. Puis, est-ce que tu veux deviner le coût?
3 piastres et quart, hein?
Non, t'étais pas loin, par exemple, c'était 2,4 millions de dollars.
Ah, okay. Bon, ben, c'est juste mes zéros qui ont pas, que j'ai pas. Mais bon,
exactement, t'étais si près, dans le fond, là.
Ben oui. C'est épouvantable, quand même, que tu passes de 400 000, puis le terrain n'est pas agrandi, là.
Non, non, exact, puis Charlie est toujours là, puis c'est juste un projet qui est sur des plans, puis, tu sais, après, c'était quand même assez ambitieux. Donc, à ce moment-là, avec ces informations-là qui circulent, on a aussi été voir les médias sociaux qui regorgent souvent de commentaires éclairants, dont un que je vais vous lire. C'est sûrement un projet que les promoteurs n'ont pas l'intention de construire. Ils ont fait la démarche pour pouvoir démolir l'ancien restaurant et libérer le terrain pour le revendre plus facilement, comme on a vu ailleurs dans la ville. Un commentaire tiré de Facebook en mars 2023. Donc, comme on disait, l'enquête que nous avons faite a résulté par un zine. Et pourquoi? Ben, en fait, nous, on s'est intéressés à ce médium de communication vu qu'il était « do-it-yourself », rapide, efficace et ancré politiquement. Nous avons choisi de transmettre les résultats de l'enquête du Charlie sous cette forme qui nous semblait assez facile après ça à partager et à transmettre à d'autres personnes. Donc, comment ça a été fait? Ben, nous sommes réunis à quelques reprises chez l'une d'entre nous pour bricoler nos recherches et nos pages de zine que nous avons ensuite rassemblées. Dans le cadre de cette enquête, le médium du zine nous a donc permis de mettre en commun nos recherches, les récits, mais également les archives et les analyses produites à partir de nos expériences vécues des lieux et des savoirs disponibles en ligne, via notamment des archives vidéo, des textes journalistiques, etc. C'est ainsi que nous avons découvert que le zine, c'est pas seulement un outil de diffusion, mais également un moyen pour actualiser les idées, les désirs, mais aussi pour les archiver. Donc, mais ce n'est pas tout. Notre enquête du Charlie ne s'est pas limitée à un zine, elle s'est aussi soldée par une mobilisation. Puis je t'explique, Alain. Le 3 août 2023, nous avons organisé le lancement du zine pour un Sherbrooke populaire.
Quand on parle de zine, c'est...
C'est comme un petit magazine.
OK, pour quelqu'un, là, tu sais que... Okay.
Exactement. C'est un petit magazine papier qui est vraiment fait par, bon, plusieurs personnes qui ont comme... même qui ont fait ça à partir d'images, de coloriages, de textes. Je pourrais t'en amener un, là, en fait. Je ne sais même pas si je l'ai avec moi, mais sinon, il est à notre bureau.
Parfait.
Donc, comme je disais, on a organisé le lancement d'usine pour un Sherbrooke populaire. L'événement s'est déroulé au parc Camiran, au cœur du quartier Alexandre, pas très loin de chez Charlie. À l'occasion du lancement, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées au parc. Nous avons diffusé des tracts, des zines, et on a également relié d'autres zines pour les partager avec les gens présents lors de l'événement. Il y avait également de la nourriture qui a été distribuée et partagée. Plus tard dans la journée, une vingtaine de personnes présentes ont décidé de prendre la rue vers la terrasse du Charlie pour manifester. Arrivés sur les lieux, nous avons constaté qu'un avis public était affiché sur le bâtiment concernant une demande d'autorisation de démolition du bâtiment.
OK.
Cette journée-là, des groupes et des individus ont commencé à tisser des liens qui allaient se consolider et se transformer à travers une période de mobilisation de plusieurs mois afin de dénoncer la démolition annoncée du Charlie. Pour ce faire, nous avons rédigé une lettre d'opposition à la demande d'autorisation de démolition du bâtiment qui a été déposée auprès de la ville par la compagnie Multiflip. Cette lettre d'opposition a ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux militants et communautaires afin d'être signée, modifiée et envoyée en masse à la ville en prévision de la prochaine rencontre de son comité de démolition. Donc, parmi cette lettre, on dénonçait non pas seulement la dépossession et la démolition de Charlie, mais on voulait également imaginer une contre-utopie. Et oui. C'est comme ça qu'on s'est imaginé le Charlie comme un centre populaire autogéré. Donc, c'était une première tentative de matérialiser un monde différent que celui vendu ou imaginé par des gros owners à Sherbrooke, comme on dit. Donc, une vingtaine de lettres au total ont été envoyées au conseil municipal. Madame de Bertol, à l'époque, nous avait dit que c'était la première fois qu'elle voyait autant de lettres pour contester une démolition.
OK.
Donc, en marge de ces actions, ou en réponse à ces actions plutôt, les entrepreneurs de Multiflip avaient lancé une pétition qui a récolté 358 signatures, mais dans laquelle ils s'attribuaient un peu un rôle de sauveur. Je cite. Okay. Comme vous savez, nous vivons une crise du logement sans précédent et Sherbrooke n'y échappe pas.
Mais oui.
Se loger est un besoin fondamental et augmenter l'offre de logement contribue à atténuer la pression exercée sur les locataires. Mmh. Bon, nous avons eu le mérite de les avoir fait travailler.
Et surtout que quand ça vient de leur bouche ou de leur plume, c'est parce que c'est pas du logement social, hein?
Non. Non, non, non. C'est ça qu'on va voir aussi. Donc, cette mobilisation a culminé jusqu'au 17 octobre 2023, lors du conseil municipal, où est-ce que devait être traitée la demande d'appel, là, en fait, la décision de démolition. Donc, ça a donné lieu à un rassemblement qui s'opposait à la démolition du Charlie, mais également à la spéculation et la gentrification du centre-ville. Une camarade du CHIP a pris parole pour expliquer aux élus que la crise du logement ne se réglera pas magiquement par la construction d'unités supplémentaires.
À des prix aussi, là.
Exactement. On s'entend là-dessus, Alain. Il y avait également Multiflip qui était là. Eux sont venus plaider leur droit à la démolition d'un immeuble en bon état au motif qu'il va se construire 36 logements, dont 4 seront abordables.
Oh.
Mais ils n'ont jamais précisé le prix ni même quel type de clientèle vivrait là-dedans.
Et je pense qu'il y avait eu une question qui avait été posée par une conseillère, je pense.
Exactement.
Madame Daupinel avait posé, c'est quoi le prix?
On le sait pas. Puis surtout, quel délai? Les logements allaient être là. Ça non plus, c'était pas possible de répondre. En fait, la seule chose qui était importante pour leur urbaniste, Madame Fanny Pelletier-Baudry, c'est d'obtenir un délai plus long pour la construction. Parce que déjà, pour eux, 18 mois, c'était pas assez.
Ah.
Donc, sans surprise, le conseil municipal vote en faveur de la démolition du Charlie et octroie le permis à Multiflip. Puis, il a sorti ce permis-là d'un délai de 18 mois pour le démolir et obtenir un permis de construction. Donc, c'est même pas pour avoir les 36 logements, là.
Non,
c'est
non.
Juste pour faire de la paperasse puis démolir un
Exactement.
Immeuble.
Exactement.
Donc, pour nous, cette contestation directe nous a permis de confirmer comment les acteurs municipaux, mais aussi les promoteurs, instrumentalisent les discours liés à la crise du logement. Parce qu'il faut comprendre que le permis de démolition avait été justifié par les besoins de logement du secteur et l'intérêt de densifier cette partie-là du centre-ville. Et ce, bien que c'était pas aligné avec les besoins des habitants et surtout pas prêt de se réaliser. Donc voilà. Mais alors, Alain, que s'est-il passé entre-temps?
Oui.
Parce que ça, c'est de là que ça s'est terminé un peu nos mobilisations. Mais depuis, je crois que tu le vois encore, le Charlie, il est toujours là.
Toujours là.
Mais je voulais reprendre un peu une nouvelle qui avait été faite encore une fois par la Tribune. Parce que, dans le fond, Multiflip a vendu le dit Charlie. Ils ont réalisé le seul objectif qu'ils avaient réellement en tête. Donc, voilà. Qui sont les acheteurs? Nicolas Ray et son acolyte, Frédéric Thomas Chaussé.
Ah, oui.
Et ils l'ont acheté au coût de 1,6 million de dollars.
C'est quand même pas pire, un Nobel, hein?
Oui, Multiflip est peut-être déçu, c'est un peu plus bas que 2,4.
Ben
mais
oui,
voilà, c'est quand même 1,6.
Ben, c'est pas pire, pareil. Hein?
Exactement. Et là, à ce moment-là, Nicolas confirme à la Tribune, le 26 juin 2024, qu'il ne reprendra pas le projet de Multiflip.
Bon.
Il dit que le meilleur choix pour lui, c'est plus d'étages et de logements.
Bon.
Donc, voilà. Mais qu'est-ce que la Tribune rapporte au propos des propriétaires de Multiflip, aujourd'hui ProDev Société Immobilière Inc.? Ces derniers ont indiqué qu'une nouvelle disposition dans le Code du bâtiment du Québec était venue compromettre leur projet qu'ils avaient en tête pour ce site. En gros, ils disent qu'ils avaient bel et bien l'intention de réaliser leur projet, mais devant cet obstacle, ils ont finalement conclu la transaction. Pauvres eux. Mais je voudrais rappeler que la Tribune, c'était les mêmes qui nous avaient appris qu'ils avaient déjà tenté de vendre le projet alors qu'ils étaient juste à l'étape de projet. Fait que moi, je voulais remercier la Tribune pour leur rigueur journalistique, puis j'en prends vraiment bonne note pour nos prochaines enquêtes.
Bien sûr.
On va suivre leur exemple. Donc, bref, je termine là-dessus, Alain, mais comme je disais, le Charlie, lui, il est toujours là. Il est fidèle au poste, à l'abandon et barricadé, gracieuseté de la ville. Il est devenu, malgré lui, un monument à la densification version PowerPoint, chère à l'imaginaire de nos big owners. À entendre les promoteurs, chaque transaction immobilière serait un geste héroïque contre la crise du logement.
Ben oui.
On achète, on revend, on re-revend, et quelque part entre les signatures notariales, hop, 36 logements apparaîtront, peut-être 36 étages.
Oui.
Il faut rêver, Alain. Leur solution à la crise, c'est « enlarge your penis ». La seule chose qui s'est réellement densifiée, c'est leur maudite poche,
exactement,
justement.
Exactement. Puis aussi, tu sais, je regarde les différences à côté, là, sur King West, qui est dans la côte, là.
Ouais.
Il y a des années que c'est supposé être démoli, c'est supposé faire quelque chose, tu sais.
Exactement. Puis c'est toujours ça qui nous prévoit, c'est toujours ça qui essaie de nous vendre, du rêve, du rêve, du rêve, des étages, mais rien n'arrive.
Exactement.
Et entre-temps, la seule chose qui augmente, c'est la valeur spéculative des terrains, puis les portefeuilles, dans ce cas-ci de M. Baudette et de McNamara. Le reste, c'est du vent. Donc pour nous, nos solutions pour logement sont clairement plus compliquées et elles impliquent qu'ils renoncent à leur capacité à dominer, chose qui n'est pas facile. Il faudrait qu'ils acceptent les imprévus et le chaos pour faire plus de place au vrai monde.
Ouais.
Pour admettre notre droit à vivre hors de leur plan, le spectre d'un lieu populaire où on pouvait se réunir ou manger seul pour pas cher, lui, continue de nous hanter.
Exactement.
Tout comme celui d'une tour à logement qu'on pourra pas se payer. Il y a des fantômes qu'on chérit plus que d'autres et pour lesquels on est prêt à s'engager. Donc, fuck leur tour.
On va prendre une petite pause avec...
Yes.
T'aimerais-tu mieux travailler avec Mario Dumont ou avec moi?
Je pense avec toi, Alain.
OK. Bon. Petite chanson que vous aviez apportée, à un moment donné.
La toune de Mario.
Sur Mario. Puis une petite pause. Puis on va revenir justement sur un nouveau projet aussi de la nouvelle ministre de l'Habitation.
Yes.
Qui touche aussi le logement, qui est encore là, veut nous faire croire qu'il croit au logement social. Alors, petite pause musicale et publicitaire. On revient avec...
Parfait.
Ah non!
Hey les blaireaux, on vote pour Mario, Mario Day, U-C-O-N-Dumont! Si j'étais un morpion, j'aurais ma maison dans les pantalons de Mario Dumont. Si j'étais un pou, j'aurais mon igloo sur la caboche du député de Rivière-du-Loup. Mais comme je ne suis qu'un vulgaire trou de cul, je dois me contenter d'un candidat de l'ADQ. Ça prend à peu près pas de qualification pour faire partie de l'équipe de Mario Dumont. Aucune compétence précise n'est requise, sinon que de savoir dire oui au chef du parti. De la balle de l'école au sniffeux de colle, tout le monde peut danser le twist des sons des kiss. Mario, Mario, tu n'es pas drôle, tu n'es pas beau, tu es mal barré, vraiment tu n'as rien pour toi, Mario. Tu n'as pas la cote des intentions de vote, tu n'as même pas de groupie pour tirer ta botte. Tu n'as pas de pot de vin pour acheter l'électorat, tu n'as pas beaucoup de moyens sauf parmi tes candidats. Hier au soir j'ai fait de l'acide, j'étais loin d'être lucide. Je croyais que j'étais un poteau de l'hydro et qu'on plantait à coups de marteau à travers ma peau un des écriteaux électoraux de Mario. Quel triste scénario pour un piteux poteau. ancienne nazie. Mario ne refuse personne dans son parti. Tu rêves d'avoir ta face sur tous les poteaux. Tu veux qu'on parle de toi dans les journaux locaux. Tu n'es pas drôle, tu n'es pas beau. Tu es tout désigné pour l'équipe de Mario. Dans l'autre site qu'on aura plus de déficit, quand Bouchard sera mort et que j'en restera pas fort. Il y aura encore toi, toi Mario. On n'est pas à veille de plus voir ta face sur nos poteaux. On est cul, oh yeah. On est cul, tout le monde ensemble. On est cul, alright. On est cul, tu n'es pas drôle, tu n'es pas beau. Ave Mario.
Il est midi
40 minutes.
Les productions Beluga s'associent au Café Baobab pour une série musicale intitulée Découverte, auteur, compositeur, interprète en français. Du mois de janvier au printemps prochain, venez entendre et apprécier les formations suivantes. Le 24 janvier, Chaloup. Le 7 février, La Courbure du Bleu. Le 21 février, Bubu Bois-Clair. Le 7 mars, Régent Turbide. Et le 21 mars, le Charlie Cliff Trio. Au Café Baobab de la rue Dunant à Sherbrooke, au coût de 15 $.
Le samedi soir, de 22h à 1h du matin, c'est Alerte métallique au 95.5 CFLX. Juste du vrai métal extrême, des nouveautés, des entrevues en direct et bien davantage. Une bonne occasion de faire des frisés sans aller chez le coiffeur. Pour auditeur averti avec le cliné, c'est vraiment pas pire pantoute.
Un rendez-vous musical pas pire pantoute.
95.5 FM.
CFLX, une radio singulière, pas pire, pantoute.
Eh oui, puis les chroniques de Cheap, c'est pas pire, pantoute. C'est Cheap en esti. C'est comme c'est ça quand vous écrivez sur votre texte. Puis c'est vraiment très pertinent, Manon.
Ah, mais merci, Alain. J'ai pris un peu beaucoup de ton temps, mais...
Non, non, mais de toute façon, vous êtes là. Bah, quand on s'est rencontrés la première fois, l'équipe, je vous ai offert ce... de faire partie de l'équipe, puis je vais pas regretter, pas du tout, au contraire, j'en suis très heureux.
Ah, mais merci.
Puis je dis pas ça pour être fin, là, je dis ça parce que c'est vrai.
Oui, puis là, justement, je pense que tu allais nous parler d'un nouveau projet de loi de la ministre de l'Habitation qui veut régler la crise du logement.
Ben oui, ce gouvernement-là veut tellement la régler, la crise du logement, et la nouvelle ministre, Caroline Proulx, hein, a été ministre, elle doit faire de la radio, hein. C'était une ancienne animatrice de radio, ça.
Ah oui?
Oui. Je n'ai pas peur, je deviendrai le pauvre, mais je m'en sais pas en politique. Il y a un monsieur Drainville qui était un journaliste aussi, là, qui
Et puis lui aussi, il a fait de la radio.
Oui, mais il t'a payé plus cher que moi, lui, l'homme, là. Il disait même à un moment donné qu'il avait plus cher quand il était à la radio que comme député.
Mm.
Ben, évidemment, une radio quand même, là, assez... un bon salaire, là.
Oui, je ne suis pas étonné.
Et donc, Caroline Proulx, qui a remplacé les deux ministres précédentes de l'habitation, dont la ministre qui a été battue, ah, quelle joie, à Saguenay, hein, la ministre de la Forêt, qui a scrappé, on va le dire clairement, le programme Axiologie.
Oui.
On va dire ça, là, on va... et repris par Cruella, par la princesse... Marie-Antoinette des pauvres, comme l'appelait ça. Donc, mais elle arrive avec un nouveau projet, justement. Puis ce matin, Michael Bergeron, dans la tribune, en parlait. Il y a aussi, sur 107,7 aussi, un article qui est sorti qui touche, entre autres, les coopératives.
Mm-hmm.
Puis là-dessus, t'as sûrement un petit peu aussi là, eu le pouls là-dessus aussi, comme tel, là.
Oui, mais j'ai vu vent de ça. En fait, j'ai eu vent de ça. Alors, j'ai cru comprendre que la ministre souhaitait imposer une contribution à ceux qui feraient trop d'argent, là, on comprend?
Exactement,
là,
c'est ça, ouais. Exactement.
Faire de la gestion de la pauvreté administrative, comme on dit, là.
Donc, elle a délibéré, donc, des logements dits abordables pour les ménages moins favorisés. Bon. Ce que Michael dit, c'est, bon, on ne peut pas contre la vertu. Mais, c'est le PL 20.
OK.
Et grosso modo, une réponse politique au rapport de la vérification, parce qu'il y avait eu un rapport de la vérificatrice générale en 2024, que 2700 ménages bénéficiaient de logements abordables malgré des revenus dépassant les critères d'admissibilité financière prévus. Mais là-dessus, il y a beaucoup d'autres ménages. Donc, conclusion qui méritait quelques nuances, parce que le rapport semblait mélanger plusieurs types de logements abordables. Puis comme il dit justement, Michael Bergeron, puis toi aussi, puis moi, on vient m'en irriter quand il dit le mot abordable, là. Ça va à toutes les sauces. Hein?
Oui, on ne sait pas trop ce que ça veut dire de toute façon.
Oui, abordable pour quelqu'un qui gagne 300 000 comme toi, là, ou comme moi. Là, tu sais, bon. Non, mais abordable, c'est toujours un mot, puis justement, bon, alors, puis justement, donc, on dit que s'il y a bien une partie des logements qui peuvent bénéficier de fonds publics, entre 25 et 30 % entre autres, ici, la coop des cantons, qui est quand même, qui a réagi comme tel, mais il reste que ça va-tu régler? Ça n'a pas l'air, ça. Même si les coopératives font partie de la solution pour créer des logements abordables et sortir de la crise du logement, les coopératives ne sont pas des logements sociaux. Ça, faut se le dire.
En effet.
Tu sais, c'est parce qu'on a, c'est en partant, c'est ce que dit aussi il y a Philippe Grenier, qui est le directeur de la coopérative des cantons de l'Est, qui disait, ben justement, là, ça n'a pas de bon sens. Le ministre souhaiterait donc que les locataires de coopératives qui ont un revenu décent cèdent leur place aux ménages faibles et modestes revenus, même les logements qui ne sont pas subventionnés. Le projet de loi voudrait aussi donc faire ça. Par contre, là, ça va-tu régler?
Mais c'est sûr que non.
La crise du logement. Puis ce que dit Michael Bergeron, souvent, ces analyses sont quand même assez à gauche. Mm-hmm. Je lis pas le Journal de Montréal avec Martineau, moi, là.
Pourtant.
Hein, c'est pourtant. Parce que quelquefois, j'ai rencontré Michael Bergeron, j'ai dit, bon, Monsieur Proulx, là, le journaliste d'extrême droite, j'ai dit, vous êtes à l'inverse de Proulx, hein, qu'il part à rire de ça, là. Bon, les loyers, bon, ils sont plus bas, mais dans les coopératives aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des gens. Il y a une participation.
Oui.
Et les coopératives ne sont pas là pour faire de l'argent. Là, je suis en train de dire que les marchés privés veulent faire de l'argent. Je suis méchant. Hein?
Ben, c'est pas mal ça, leur objectif premier. Là.
C'est ça. Alors, donc, évidemment, eux autres, ce qui arrive, c'est que dans une coop, il y a beaucoup de gens qui font du bénévolat.
Donc, ouais, ça veut dire ils travaillent pour la coop. Là. Moi, c'est ce que je comprends. C'est que oui, le loyer d'une coop est généralement plus bas que ce qu'offre le marché, mais ça vient en contrepartie d'un travail qui souvent se comptabilise en termes d'heures là, pour c'est un ça. Mois, puis aussi d'une vie coopérative où qu'il faut participer, là, que ce soit les assemblées générales.
Puis ils sont obligés, puis quand ils rentrent, c'est obligatoire. Là.
Exactement. Puis même ça, je sais qu'il y a des enjeux à cet effet-là, face à même certaines personnes qui perdent des fois la capacité de pouvoir faire les dites tâches. Mais moi, c'est ça que je trouve un petit peu incroyable, là. C'est que là, la ministre veut venir s'immiscer dans la gestion des coopératives.
C'est ça.
Venir un peu détruire un mode de vie qui est alternatif aussi, qui est hors marché, puis qui...
C'est ça. Puis aussi qui fait que, justement, qu'il y a des gens là-dedans qui sont là depuis de nombreuses années. Et comme tu as dit, là, la vie de coopérative comme telle, donc c'est comme déplacer.
Déplacer le problème.
Un problème. C'est vrai que plusieurs améliorent leur situation financière pendant leurs années en coopérative. La majorité finit par quitter elle-même souvent en achetant une première maison.
Parce
que c'est des gens qui ont des... Puis aussi, il y a pas... Moi le premier, là, je suis un gars, je parais sociable, là, mais quand je suis rendu chez nous, là, ça me tente pas de faire des tatas à plein de monde autour de chez nous, puis de participer au café, là. Tu sais, il y a des gens qui disent, quand je reviens à la maison, je suis tranquille. Tu sais, fait
que
c'est des gens qui font ça comme tel. Donc, c'est un peu ça. Puis il reste qu'actuellement, c'est ça, comme tu as dit, là, lui, ce qu'il dit là-dedans, c'est que, puis là, le Frappoulu qui a réagi, l'organisme, vraiment, qui regroupe le comité de logement, doute que le gouvernement vise cette approche plutôt socialiste. Rien n'indique dans le projet de loi une telle volonté. Pour que ça fonctionne, il faudrait un plafond. Il faudrait indiquer aussi les critères. Comment seraient investis les nouveaux revenus et qui en ferait la gestion? Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse.
Mais ça, c'est pas mal, on dirait, l'opus operandi de la CAQ en ce moment. Là, c'est faire des projets de loi qui sont indigestes, qui sont souvent très mal ficelés. Là. Je suis aussi, à cause de mon autre vie, le projet de loi sur tout ce qui est la gouvernance syndicale. Pis c'est la même affaire. Là. C'est comme une trollée de règles. Ils savent pas trop comment ça va s'appliquer. Puis ultimement, ça les intéresse pas. Ils veulent juste venir saccager des affaires, puis vous vous débrouillerez avec ça, puis le PQ se débrouillera avec ça pour la suite. Là.
Oui, c'est ça. Pas sûr que ça soit qu'on tombe avec un autre véhicule plus...
Non, exactement. Je dis pas ça parce que je le souhaite. Là. C'est malheureusement avec beaucoup de pessimisme.
C'est ça. Et justement, le frappier, ce qu'il dit, ils sont clairs, c'est le PL20 mérite carrément la poubelle. Bon, c'est clair. C'est pour pas être passé par quatre chemins. Parce que c'est ça, c'est parce que... Il y aurait plus de 34 000 ménages locataires en attente pour un logement à prix modique disponible pour des organismes comme l'Office de l'habitation. Donc, le projet, s'il fonctionnait, il viserait 2 700 logements. Bon, fait que 34 000 puis 2 700, je suis pas fort en maths, là, mais il y a un petit trou.
Oui, puis moi, je m'inquiète, pour vrai, de ces 2000 personnes-là. Tu sais, j'ai beau croire qu'elles font, qu'elles ont un revenu décent, pour reprendre les termes de la ministre Lamontagne.
C'est Proulx.
Proulx, la ministre Proulx. Mais, tu sais, ça reste que ces gens-là vont être repognés dans le marché privé avec des prix prédatoriales qui, tu sais, en effet, là, c'est dur de trouver un logement avec un prix un peu décent, tu sais, si on veut parler de prix décent, là. C'est très, très, très difficile là, d'avoir ça. Fait que moi, je m'inquiète aussi pour les 2000 personnes qui, actuellement, sont aussi là parce qu'ils aiment le mode de vie.
C'est ça. Et que ça convient. Puis c'est souvent que c'est des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont bâti.
Oui, la coop.
La coop, comme telle, là. Puis qui l'ont fait, là, avec beaucoup, beaucoup d'heures.
C'est ça.
De bénévolat.
Puis je me questionne sincèrement, là, sur leur revenu décent, là. Est-ce que c'est vraiment un revenu qui va permettre de payer des logements à 1 200, 1 300, 1 500 et plus, là? Tu sais, dans des villes comme Montréal, demain matin, tu te cherches un 4,5, sors le chèque, là.
Même à Sherbrooke, on s'en met bien, tu sais. Puis je regarde la semaine prochaine, je reçois justement le Centre des femmes du Haut-Saint-François qui... il y a un spécial la semaine prochaine, là, 8 mars.
Oui.
Et puis justement, ben, le prix des loyers dans Haut-Saint-François, là, Couchir, Stingues, là, c'est acheté par des petits amis de Sherbrooke qui ont pris deux blocs de personnes à mettre dehors, là, puis qu'ils le font dans des petites villes. Fait que c'est devenu difficile. Fait que c'est pour ça que ce projet de loi, c'est que le Frappier dit que c'est l'hypocrisie du gouvernement, c'est joli textuellement le Frappier, qui depuis des années ne fait rien pour aider la crise du logement et même nuit à la situation. Et là, tout d'un coup, il veut créer des logements et des règlements quand c'est le problème était que des gens abusent du système. C'est chercher des faux coupables, dit Véronique Laflamme. C'est ça qu'on est en train de dire, là.
Oui, oui, oui.
Donc, puis sûrement que aussi, vous allez vous pencher là-dessus, au chip, à un moment donné, sur ce magnifique projet de loi.
Probablement, mais en même temps, c'est tellement dur à suivre. Puis je pense que ça, c'est une petite tactique de fin de régime, là.
Ben,
c'est déboussoler les gens, amener plein de projets de loi problématiques.
Puis ce qui arrive, on est au mois de mars, après-demain, là.
Oui, oui,
il reste, comme tu disais tout à l'heure, très peu de semaines. Puis là, tout d'un coup, il arrive avec plein de projets. Puis tout d'un coup, là, puis c'est ça. Donc, évidemment... puis on sait qu'évidemment, les dernières années, le gouvernement Legault a souvent accusé les autres pour la crise du logement. Entre autres, accusé qui?
C'est une bonne colle, ça.
La cause de la crise du logement, c'est la faute des immigrants.
Ah oui.
C'est la faute du fédéral. Et donc, c'est ça. Donc,
puis là, c'est les gens en coop.
Ah, c'est ça. Fait que là, on essaie de trouver, là, encore là, des alternatives, mais donc, évidemment, c'est clair, puis ça a été dénoncé par les groupes, puis je pense que tout à l'heure, on parlait du projet de loi 1, tu avais l'autre projet tout à l'heure qui était le projet
de loi 13.
13. Hein. Et, bon, ils sont tous malchanceux, de toute façon, c'est tous des 13.
C'est ça, puis on pourrait parler du projet de loi 3, du projet de loi, les projets de loi sur la laïcité, que j'ai perdu les chiffres, mais vraiment, c'est pas drôle
là,
ce qui se passe.
Encore là, il y a des femmes qui travaillent dans des centres de petite enfance qui peuvent être congédiées parce qu'ils ont un voile.
Oui.
Entre toi et moi, ils peuvent être à bois, là. Un enfant de 4 ans, là, ça change rien dans sa vie?
Je peux te garantir que ma fille de 2 ans s'en calisse, là.
Bon, puis, c'est ça.
Puis au-delà de ça, c'est juste comme... Tu sais, c'est venir affaiblir aussi plein de... Tu sais, les garderies, les CPE, c'est pas eux qui roulent sur une tonne d'employés, là. Pareil pour les écoles, tu sais, c'est vraiment... En tout cas, ils viennent tous saccager avant de partir.
Non, hein? Non, c'est ça. C'est vraiment comme si, justement, des fois, avant de partir de quelque part, tu dis, on va mettre ça... on va mettre ça à notre... on va leur mettre à terre, puis comme tel, pour laisser un futur gouvernement autre, mais... C'est ça, fait que... Donc, justement, aussi, il y avait l'article il y a quelques jours aussi de Michel David qui parlait justement de l'entêtement du ministre Roberge. Infoman l'a appelé la tête de cochon. Mais, textuellement, Infoman. Mais il reste encore là. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, c'est pas notre faute, c'est la faute du fédéral.
Ah ouais. Ah,
bon, c'est la faute, ben non, c'est ça. Fait que, donc, il y a toujours la faute de quelqu'un qui fait que là, ils sont obligés d'arriver à un plan comme ça.
Puis, oui. Puis au-delà que c'est toujours la faute de quelqu'un, quand ils n'ont pas de personne à qui remettre la faute, c'est que sinon, c'est qu'on n'a pas compris. Tu sais, c'est fascinant actuellement, Alain, comment justement Simon-Jolin Barrette, le ministre Boulay ou même Jean-François Roberge, quand ils viennent le temps d'expliquer leur projet de loi, ben quand les gens s'indignent avec raison, ben oui. Ils vont juste soulever le fait que ces gens-là ne comprennent pas. Puis que c'est eux qui ont la science infuse, puis c'est eux qui comprennent, puis que c'est nous qui compliquons les choses.
C'est ça.
Pis ça n'a aucun bon sens à quel point le mépris, là, il est important à la CAQ actuellement, là.
Et donc, c'est ça. Donc, ça va être à suivre, évidemment. Comme je dis, donc, l'émission d'aujourd'hui se retrouvera ce soir ou demain matin sur le site Internet de CFLX comme tel. La semaine prochaine, comme je dis, je suis en train de préparer l'émission pour le 8 mars. Avec des groupes, c'est ça, avec le CAF, avec aussi, là. Puis il y a beaucoup d'activités, d'ailleurs. Tu as pu voir, Manon, sur Facebook, là, plusieurs activités qui se déroulent comme telles en lien avec la Marche mondiale des femmes, un retour. Le 8 mars, il y a l'Association locataire fait quelque chose aussi. Le 10 mars, fait que donc, il y a plein d'activités qui s'en viennent. Donc, on vous laisse à la programmation, bien sûr, de CFLX. Manon, merci de ton éclairage.
Mais merci à toi, Alain. Merci pour cette belle invitation encore une fois. Et surtout, merci de m'avoir laissé parler. J'ai pris beaucoup de ton temps.
Ben non, ben, pour ça, de toute façon, je ne m'appelle pas François Legault, c'est pas moi qui ai le monopole de la parole. Fait qu'on se laisse là-dessus, on laisse la publicité, la musique continue sur CFLX, et bien sûr, merci.
Encore, bonne journée.
Il est midi.
57 minutes.
La semaine de relâche, c'est au Musée des beaux-arts de Sherbrooke que ça se passe. Du 28 février au 8 mars, découvrez l'univers magique des expositions de Qualité Fantasy, d'Ultranan et Gordon et Henri vont se balader en ville de Tania Morand. Ateliers de création, danse, expériences virtuelles, rencontres d'artistes, c'est l'endroit parfait pour créer, s'émerveiller et s'amuser en famille. On s'y donne rendez-vous. Une présentation de Desjardins.
Vous êtes-vous déjà demandé où va votre argent chaque mois? Il peut sembler compliqué de gérer votre argent. Heureusement, ABC Questions d'argent offre un programme d'introduction aux connaissances financières gratuit à tous ceux qui souhaitent gagner en confiance financière. Apprenez davantage sur des sujets spécifiques comme le calendrier des dépenses, le magasinage intelligent, emprunter de l'argent et les façons d'épargner. Mieux comprendre la gestion de votre argent est plus facile que vous ne le pensez. Commencez gratuitement aujourd'hui. Pour une meilleure gestion de votre argent, veuillez...
Ici Steve Bergeron. Chanson de circonstance est de retour pour une troisième saison dans un nouveau format de 2 heures, une fois par mois, le dimanche à 15h et en rediffusion le vendredi suivant à 14h. Toujours en compagnie de Fabrice Cuvillier à la mise en onde, je vous attends pour souligner en musique les différents anniversaires, éphémérides, journées mondiales et autres dates importantes du mois en cours. Surveillez notre page Facebook pour connaître nos dates de diffusion. J'espère donc que vous serez avec nous tout au long de 2026. À bientôt.
Conditions actuelles, moins 4 degrés.
Pas pire pantoute, la radio communautaire de l'Estrie, CFLX 95.5 FM.
Thank you. Juste avant de fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché à toutes mes poches pour comprendre que ce qui me manquait, c'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps.